Bonjour à tous et bienvenue au quatrième épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. Aujourd'hui, le 21 août 2023, je vous résume le bulletin de la semaine et je réponds à la question d'un auditeur. Cette semaine, on parle du congrès de l'AQPP, des modifications apportées à la couverture des agonistes du GLP-1 pour certaines assurances privées, de transmission de médicaments en retard au dossier Santé Québec, des recommandations du M3S sur l'intervalle entre les doses de vaccins contre le Zona pour les populations ciblées par le programme de gratuité, du droit à la désindexation et on partage une invitation d'Accessa. Pour la question d'un auditeur, on nous a demandé si le pharmacien peut facturer des frais pour démontrer l'usage approprié d'un médicament sous forme d'inhalateur. On commence cet épisode avec une annonce importante. Le congrès annuel de l'AQPP se tiendra cette année les 16 et 17 novembre au Palais des congrès de Montréal. Notre équipe travaille fort à préparer ces deux journées et on a déjà confirmé la participation de très bons conférenciers. On compte sur votre présence, alors n'oubliez pas de marquer les dates du congrès à votre calendrier. On vous enverra bientôt les directives pour vous inscrire. On continue l'épisode avec un sujet qui a apporté beaucoup de questions de votre part dans les dernières semaines. Les modifications apportées à la couverture des agonistes du GLP-1 par certains assureurs. Les patients assurés au privé qui reçoivent un agoniste du GLP-1, comme l'Ozempic, Victoza et Trulicity, pourraient bientôt se faire refuser la couverture de leurs médicaments si ce n'est déjà pas fait. Chez plusieurs assureurs, ces médicaments sont maintenant sujets à une autorisation préalable automatisée afin de valider le diagnostic de diabète de type 2 du patient et la prise antérieure d'un médicament antidiabétique de première ligne. Si l'historique de médicaments de votre patient est confirmé, la demande de règlement sera automatiquement approuvée dans votre système et remboursée. Si le système ne peut pas bien identifier le diagnostic et l'historique médicamenteux de votre patient, il se peut qu'un formulaire d'autorisation soit nécessaire pour la couverture. Vos patients touchés par cette mesure devraient recevoir une communication personnalisée de la part de leur assureur quelques semaines avant le début de cette mesure. Ils vont être informés du changement et des étapes à suivre selon leur situation. À titre d'information, l'assureur devra couvrir le médicament lorsque le patient répond aux indications reconnues à la liste des médicaments de la RAMQ, conformément aux garanties du régime général prévues à la loi sur l'assurance médicaments. La RAMQ liste actuellement les GLP-1 comme des médicaments d'exception pour le traitement du diabète de type 2. On enchaîne avec un message du DSQ qui nous informe d'un problème de retard dans la transmission de médicaments faite en pharmacie au domaine médicaments. L'équipe du DSQ note des délais variables entre le moment où le service physique d'un médicament est rendu en pharmacie et le moment où la transmission au DSQ est faite, ce qui peut aller parfois jusqu'à plusieurs semaines. Selon leur analyse, les principales causes sont les piluliers, les vaccins et les médicaments et patients d'exception. Alors, le DSQ aimerait vous rappeler l'importance de transmettre le plus tôt possible tout médicament servi à un patient en pharmacie. Comme ça, le profil pharmacologique sera complet et à jour pour les intervenants santé qui consultent le DSQ. On compte sur votre collaboration habituelle. Dans le même ordre d'idée, on partage aussi un message du M3S. Le M3S vous rappelle que l'intervalle recommandé pour l'administration du vaccin contre le Zona est de 2 à 12 mois. Pour les personnes immunodéprimées, le PIC précise d'utiliser de préférence l'intervalle recommandé le plus court, soit de 2 mois. En considérant les quantités de doses de vaccin et le budget disponible, le M3S demande de prioriser l'intervalle le plus court, c'est-à-dire de 2 mois, pour les personnes de 18 ans et plus immunodéprimées et de privilégier un intervalle de 10 à 12 mois pour les personnes de 80 ans et plus. On vous partage ces informations pour que vous puissiez bien planifier les soins que vous offrez. Ces intervalles vont vous permettre d'administrer le plus grand nombre de doses disponibles aux clientèles qui sont visées et en même temps de respecter les recommandations du PIC. Et n'oubliez pas que si la vaccination est donnée avant un traitement immunodépresseur ou une greffe, l'intervalle minimal est recommandé pour administrer, si vous le pouvez, les deux doses avant le début de l'immunodépression. Cette recommandation est indiquée dans le PIC. On sait que présentement, les quantités de Shingrix sont limitées selon l'allocation des vaccins de la santé publique. En fait, l'allocation au réseau des pharmacies est d'environ 6 000 doses par mois et les grossistes ne sont pas en mesure de commander plus de doses que ce qui est alloué. La plupart des grossistes mettent en place des filtres afin d'assurer une distribution aussi équitable que possible entre les pharmacies qu'ils desservent. Ainsi, c'est d'autant plus important de respecter les intervalles recommandés pour la vaccination contre le zona et soyez patient lors de vos commandes le temps du réapprovisionnement de votre grossiste. On revient cette semaine sur le sujet de la protection des renseignements personnels. Je vous ai déjà dit que les affaires juridiques allaient vous partager plusieurs bulletins là-dessus pour vous accompagner. Donc, cette semaine, on vous parle du droit à la désindexation. Ce que le droit à la désindexation veut dire, c'est qu'une personne peut exiger qu'une entreprise ne diffuse plus de renseignements à son sujet ou qu'elle désindexe ou supprime tout hyperlien rattaché à son nom. Par contre, il faut que deux critères soient réunis pour que ce droit soit reconnu. 1. La diffusion doit contrevenir à la loi ou à une ordonnance judiciaire. Et 2. La diffusion de ce renseignement doit causer un préjudice grave à la personne. Le droit à la désindexation n'est pas un droit de supprimer tous les renseignements qu'une entreprise pourrait avoir au sujet d'une personne selon ses obligations légales. Comme professionnel de la santé, vous êtes déjà bien encadré par votre obligation de confidentialité sur l'identité de vos patients. En effet, vous ne pouvez pas dévoiler l'identité de vos patients. Les renseignements personnels de vos patients ne devraient donc pas être diffusés. On vous rappelle aussi que le pharmacien doit répondre à ses obligations légales de conserver le dossier patient tant et aussi longtemps que le patient est desservi par sa pharmacie. En principe, le dossier ne peut être fermé qu'après 2 ans d'inactivité ou en cas de décès. Également, compte tenu des pouvoirs d'enquête de la Régie de l'assurance maladie du Québec, vous devez conserver les ordonnances, les justifications de pilulier et toutes les autres informations comprises au dossier patient qui permettraient de justifier une réclamation pour une période de 10 ans. Maintenant, un message de la part d'Accessa. Accessa va tenir 2 événements virtuels en septembre. Le premier aura lieu le 19 septembre de 19h à 20h30. Ce sera une formation multiprogramme qui permet d'accéder en accéléré aux 18 programmes en opération. Le deuxième se tiendra le 28 septembre de 8h à 9h. Cette fois, ce sera une séance d'information où on va présenter les projets sur lesquels l'équipe a travaillé cet été et dévoiler les nouveautés d'Accessa pour l'automne. Surveillez vos courriels pour les invitations à ces événements qu'il ne faut pas manquer. On arrive à la question de la semaine. On nous a demandé si on peut facturer des frais pour démontrer l'usage approprié d'un médicament sous forme d'inhalateur. La réponse est non. On ne peut pas facturer des frais d'enseignement pour démontrer l'usage approprié d'un médicament sous forme d'inhalateur, tant à la RAMQ qu'à un patient avec une assurance privée. En fait, dans la loi sur l'assurance médicaments, ce service est assuré en vue d'administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intranasale, intradermique ou intramusculaire ou par inhalation afin d'en démontrer l'usage approprié. Oui, notre entente avec le M3S est plus restrictive et ne couvre pas la voie orale, mais si on facture des frais, il serait accessoire car la voie orale fait partie du service assuré. J'espère que cette explication vous apporte plus de clarté. C'est déjà la fin de ce 4e épisode de la saison 2 du balado Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, dont les bulletins de l'AQPP, son site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos nombreux services. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!